Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Pour Dieu, que représente le péché? Que représente-t-il pour nous? Approuvons-nous l'Éternel sur sa définition du péché? En quoi cela nous concerne-t-il? Et en quoi cela affecte-t-il notre ultime destinée en tant qu'enfant de Dieu? Et en tant que futur membre immortel de la famille divine, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché. Paul nous rappelle dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelques chapitres plus loin, dans Romains 6, 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous connaissons tous l'histoire de la chute de nos premiers parents, de ce que l'on appelle communément le péché originel. Mais dans quelle mesure comprenons-nous pourquoi Adam et Ève péchèrent et pourquoi tous les êtres humains depuis eux ont péché et de ce fait sont privés de la gloire de Dieu? Pour nous, est-ce simplement une erreur regrettable de parcours, simplement un mauvais choix sans conséquence? Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. C'est ce que nous dit Jean dans 1 Jean 3, 4. Cela, généralement, nous le savons, mais mesurons-nous pleinement l'ampleur, la gravité et l'influence du péché sur nos idées et sur nos actes? Nous rendons-nous compte de ce qu'il représente? Paul nous dit dans Romains 7, 14 que la loi est spirituelle. Non pas physique, mais spirituelle. Autrement dit, du domaine de l'esprit. Elle est sainte et parfaite. Il ne nous parle pas de n'importe quelle loi, mais de la loi de Dieu. Par conséquent, des valeurs morales sur lesquelles Dieu s'appuie dans tout ce qu'il fait. Il ne s'agit pas pour lui d'un simple système de contravention ou d'interdiction, mais d'un véritable mode de vie, d'une manière de raisonner, d'un ensemble de principes positifs et de valeurs spirituelles qui ont fait leur preuve dans l'éternité et qui ne produisent que du bien et un bonheur ineffable. À tel point qu'il base tout sur sa loi, que c'est sur elle que s'appuie son caractère et sa personnalité. Il ne vit que par elle, il l'aime. Tout en Dieu respire et exude la loi divine. Dans 24 jours, nous célébrerons la Pâque de l'Éternel, suivie pratiquement immédiatement de la fête des pains sans levain qui durera 7 jours, et qui, cette année, tombe du 6 au 12 avril. La Pâque et la fête des pains sans levain ont fort à faire avec le péché. Si ces fêtes sont célébrées par les vrais chrétiens de par le monde, c'est à cause du péché. Si Adam et Ève n'avaient pas péché et ne s'étaient pas arrogé la prérogative de définir ce qui est bien et ce qui est mal, contrairement à la loi divine, ces fêtes n'auraient pas lieu. On vous reparlera d'ici peu de la profonde signification de ces célébrations divines, mais j'ai tenu dans mon message d'aujourd'hui à vous rappeler ce que représente le péché par rapport à la loi divine. Il importe que nous comprenions bien ce que le péché représente. Il est impératif que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éliminer de nos vies, car ses conséquences sont terribles. Pas seulement négatives ou navrantes ou déplacées, mais terribles, car il cause la mort éternelle, un retour au néant, une destruction définitive. Pourquoi Dieu est-il mesquin ou pointilleux ou exigeant? Aucunement. Notre Père céleste et son Fils ne nous veulent que du bien et notre bonheur. Et ils ne font pas de compromis dans ce domaine. Nous devons être entièrement lavés, purifiés, blanchis et les approuver. La philosophie du péché est mortelle. Et pour cela, Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7. Pour Dieu, cela a été fort coûteux. L'un des membres de la famille divine a dû être torturé et mourir d'une mort atroce à cause du péché. Une fois que nous sommes purifiés, blanchis, pardonnés, justifiés, le péché n'a point de pouvoir sur nous puisque nous sommes, nous autres chrétiens, non sous la malédiction de la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Oh, cite souvent ce verset en l'isolant totalement de son contexte, lui faisant dire ce qu'il ne dit pas et oubliant sciemment ou inconsciemment de citer ce qui est écrit avant et après. Reportons-nous à Romains chapitre 6, verset 12. Romains chapitre 6 et le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Versets 12 et 13 maintenant. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, loin de là. Et il parle à des chrétiens. S'il dit pécherions-nous, ça veut dire que c'est encore possible de pécher. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, à nouveau il parle toujours à des chrétiens, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi, obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Tous ces mots sont importants. Ils ont tellement été tordus. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, esclaves ou serviteurs de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice ou comme serviteurs à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin ou le résultat final de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez, esclave ou serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et verset 23, verset bien connu, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, très bonne nouvelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible se sert de beaucoup de mots pour décrire le péché, tant il est complexe et tant il s'immisce dans nos vies à notre insu et tant il est destructeur. Mais avant de nous pencher sur la sémantique hébraïque ou grecque, il est bon que nous consultions un passage qui nous décrit la naissance, l'origine du péché. Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28, reportons-nous à ce passage auquel nous nous sommes reportés, nous reportons assez souvent, Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28 et le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, verset 12. Et dans ce passage de l'Écriture, comme cela se passe souvent dans les Écritures, Dieu décrit un être humain qu'il compare à un être spirituel, puissant, dont il se met à nous parler. En l'occurrence, l'archange Lucifer, ce que révèle clairement la phraséologie et le contexte du passage. Il parle ici du roi de Tyr, un être humain, puis il passe à un être spirituel qui a le même comportement. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. D'autres traductions ont tu étais le sceau de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Un être magnifique, très sage. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On voit donc qu'il s'agit ici non plus d'un être humain, mais d'un être spirituel qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il a dû être magnifique. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Dieu est un grand musicien. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu ou la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Essayez d'imaginer la splendeur de ce tableau. Tu as été intègre dans tes voies. Il fut un temps où il était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où, à un moment donné, l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il a commencé à se dire, « Oh, je suis beau, je suis formidable, oh !» Il s'est donné de l'importance. À un moment donné, l'iniquité a été trouvée chez Lucifer. Dieu a décelé l'iniquité dans son caractère. En hébreu, le mot traduit en français par iniquité est le mot avon. Cela me fait penser au produit cosmétique avon. Je me demande pourquoi on a voulu donner un tel nom à ces produits de maquillage. Intéressant comme nom quand on sait qui est l'ultime maquilleur. Le dieu de ce monde. D'après la concordance de Strong, le mot « avon » est utilisé plus de 200 fois dans la Bible. Il évoque la perversité, la déviation, la déformation et, pourrait-on dire, le subterfuge, la tromperie. À un moment donné, Lucifer s'est écarté de la loi divine. Il s'est égaré, il a dévié. Il s'est mis à déformer les choses. Il est devenu expert en supercherie, en fausse apparence. Et il s'est mis à mentir. Vous voyez, les anges ont le pouvoir de choisir. Ils ont aussi le libre arbitre. La Bible nous dit qu'un tiers des anges s'est rebellé contre Dieu et a suivi Satan. Il y a un autre passage qui parle de la chute de Lucifer, l'inventeur du péché. Il s'agit d'Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14 et le verset 12. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il y a même des versions qui disent, je serai ou je deviendrai le Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Le péché est notre ennemi mortel. Frères et sœurs, il nous colle à la peau. s'il n'est pas éliminé, il nous détruira définitivement. Comme nous venons de le voir, quand l'archange Lucifer s'est détourné de Dieu et de sa voix, et s'est rebellé contre lui, son caractère s'est rempli de violence. Une violence spirituelle. Et Dieu qualifie cette déviation spirituelle de péché. De péché impardonnable. Quels sont les mots hébreux traduits par péché dans la Bible, autrement que par le mot avon? Je ne me concentrerai pas sur l'épellation, mais sur leur sens en français. Dieu, dans l'Ancien Testament, se sert d'autres mots pour décrire le péché. Je dis bien décrire. Parce que c'est comme l'amour. La Bible parle de l'amour. Il y a des mots pour amour, mais la description est plus importante. On peut s'attacher aux mots hébreux ou aux mots grecs, mais Dieu nous dit qu'est-ce que c'est par des descriptions. Alors j'ai consulté plusieurs sources qui ne citent pas toutes le même nombre de mots. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que l'idée de péché, et pas nécessairement le mot péché lui-même à nouveau, lorsqu'il est question de ses effets, de ses traits, de ses conséquences, elle est traduite par plusieurs mots différents. Il révèle un certain nombre de nuances. Et je souhaite me concentrer sur ces nuances et sur ces attitudes. Elle nous aide à comprendre ce que représente le péché. Apparemment, le mot le plus souvent utilisé pour décrire le péché est le mot « rachat ». Il apparaît plus de 600 fois dans la Bible. Il est souvent traduit par « mal » ou « méchant » ou « mauvais ». Concentrons-nous sur ces mots en français. Ils dénotent quelque chose qui est contraire à la nature divine, qui contredit Dieu, qui est moralement mauvais. Ensuite, il y a le mot hébreu « shara » qui apparaît un peu moins de 300 fois dans la Bible et qui est traduit le plus souvent par « péché » ou « offense » et qui sous-entend que celui qui le commet mérite et s'attire un châtiment. Il y a ensuite le mot « pécha » qui apparaît près de 100 fois dans la Bible et qui décrit aussi le péché. Il dénote l'idée de transgression et sous-entend qu'il y a rébellion. La Bible se sert aussi du mot « asham » plus de 30 fois. Il est généralement traduit par « culpabilité » et sous-entend qu'il y a eu offense ou violation. Il y a aussi la racine « taha » qui indique l'idée de vaciller, d'égarer, de séduire, de démanteler, d'errer. Nous voyons que tous ces mots nous donnent des nuances. Ils nous disent ce que c'est que le péché. Ils décrivent le péché plutôt qu'un seul mot. La racine pasha qui évoque l'idée que l'on s'écarte de l'autorité établie, que l'on provoque l'apostasie, que l'on cherche querelle, que l'on offense, que l'on se rebelle, se révolte, transgresse quelques lois ou quelques principes. Il y a aussi la racine shaga qui traduit l'idée d'égarement, de fauter, de tituber, ou de perdre son équilibre, d'être mal aiguillé, intoxiqué ou drogué, de pécher par ignorance. Dans le Nouveau Testament, divers mots sont utilisés pour traduire l'idée de péché. On note le mot « amartia » qui signifie « péché », « offense ». Le mot « paratma » qui évoque l'idée de déviation, de glissement ou de dérapage, d'erreur, de transgression, de faute, de contravention, de violation, d'intrusion ou d'entrée par effraction. Intéressant tous ces mots, comment ils nous donnent des idées. Il y a toutes sortes de synonymes. Et ça nous aide à mieux cerner le péché. Toujours dans le Nouveau Testament, le mot parabasis qui traduit l'idée de cassure, de détérioration, de transgression. Le mot azébia qui signifie impiété. Et par voie de conséquence, la méchanceté, l'iniquité, ce qui est profane. Le mot amartma qui signifie péché, dans toute la puissance du terme. Et le verbe amartano qui signifie également errer, chuter, dans le sens de rater ou de manquer la cible. Et péché, c'est en fait la manquer considérablement. Vous avez la cible et péché, on n'est même pas dans la cible. On est loin d'être sur la cible. On est loin de faire ce qui est juste et de raisonner comme Dieu. Et c'est l'équivalent grec du mot hébreu « chata ». D'autres mots décrivent le péché et aussi ils évoquent l'idée d'échec, de dégénérescence, de calamité, de vice, de bêtise ou d'espièglerie, de gravité, d'obscénité ou de débauche, d'inutilité, de futilité, de dépravation, d'injures, de maladies, de puanteur, de trahison, de déchirement, de destruction, d'injustice, de calamité, d'anarchie. Vous voyez comme tous ces mots décrivent le péché. La Bible est donc riche en termes décrivant le péché. Dans Ézéchiel 28,15, quand Dieu dit de Satan qu'il y a eu un moment où l'iniquité a été trouvée chez toi, cette iniquité s'est traduite par la violence et tout un comportement qui a dégénéré en opposition totale et flagrante à Dieu, à sa loi et à sa nature. D'après ce que nous venons de voir, Satan, l'adversaire, le serpent ancien, le diable, le dieu de ce siècle, l'auteur et l'inventeur du péché est donc décrit dans la Bible par des termes comme menteur, meurtrier, malin, pervers, trompeur, méchant, impie, transgresseur, rebelle, apostat, violeur, vicieux, malade, traître, pervers, anarchiste, séducteur, destructeur, tentateur. Ce qui le décrit, décrit le péché. Satan cherche querelle, offense, se rebelle, se révolte, égare, est un intrus. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il médit et répand des commérages. Il nous fait frotter, tituber. Il nous intoxique, il nous drogue. Nous fait pécher par ignorance ou inadvertance. Il répand l'offense. Il est expert en déviation. Il nous fait glisser, déraper, errer, tout casser, chuter, rater ou manquer la cible. Il nous fait perdre notre équilibre spirituel. Il nous plonge dans la dégénérescence, la calamité, le vice sous toutes ses formes, la bêtise, l'obscénité, la débauche, l'inutilité, la futilité, la dépravation. Il est expert en injures et il est spirituellement fort nauséabond. Mais l'idée maîtresse décrivant le péché dans la Bible est ce que ce dernier consiste à, le péché, il consiste à rater la cible. À rater la cible. À ne pas être à la même page que Dieu. À ne pas le comprendre. À ne rien saisir de sa nature, de son amour et de ses voies. C'est s'opposer à lui, à Dieu, et le contredire. D'où l'idée de rébellion. Dans l'Ancien Testament, le verbe « parsha » décrit une rébellion ouverte contre Dieu ou d'autres êtres humains. On le trouve dans des passages comme Ézéchiel 2.3. Ézéchiel 2.3, où il est écrit « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. » Révoltés contre moi. Question de rébellion ouverte. Pasha. Ou Pasha. Ce verbe se retrouve dans des passages comme 1 Roi 12:19. 1 Roi 12:19, où il est écrit qu'Israël s'est détaché ou s'est révolté ou rebellé contre la maison de David. Et dans 2 Rois 1:1, où il est écrit que Moab se révolta contre Israël. Et très proche de ce verbe, on trouve le verbe hébreu « sora », dont la racine décrit généralement l'abandon d'une voie, et peut décrire la déviation spirituelle ou la corruption obstinée de la bonne voie, comme dans Ésaïe 1:5. Corruption obstinée. Et Dieu dit dans Ésaïe 1:5, « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et le cœur, et tout le cœur est souffrant. » Il y a aussi le mot « mahal » qui décrit la trahison ou la perfidie et l'infidélité, comme dans Ézéchiel 15:8, où il est écrit « Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles » ou commis des sacrilèges, comme le dit la Nouvelle Bible Second. Ils ont commis des sacrilèges, dit le Seigneur l'Éternel. Cette idée est reprise dans Ézéchiel 17:20, où il est écrit « J'étendrai mon ray sur lui, il sera pris dans mon filet. » Je l'emmènerai à Babylone et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard, ou à propos du sacrilège qu'il a commis envers moi, Nouvelle Bible Second, ou pour son infidélité envers moi, Second 21e siècle. On voit tous ces mots nous aident à cerner le péché, à nous demander est-ce que moi je ne suis pas un peu coupable de ces choses et que ce n'est pas un problème pour moi. Et à l'approche de la Pâque et de la fête des pains sans levain, nous pouvons nous réfléchir à tous ces mots, à ce qui décrit le péché. Qu'est-ce qu'il y a encore à changer en moi? Pour Dieu, le péché est quelque chose d'abominable. Abominable. Pour lui, il y a certaines choses qui sont des abominations. Voilà bien un autre mot qui décrit le péché. Abomination. Le mot hébreu traduit en français par abomination est le mot toeba. Et il décrit quelque chose de répugnant, de repoussant, de puant même, dont Dieu a horreur, quelque chose qui le dégoûte. Comme dans Deutéronome 17:1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ou comme dans Lévitique 18:22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le terme harar, qui évoque aussi la malédiction, apparaît aussi souvent dans la Bible, dans diverses malédictions prononcées dans cette dernière comme déclaration formelle et précise de châtiment déterminé, avec l'idée de menace. On peut lire notamment dans Genèse 3:14-17, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ce terme apparaît également dans Jérémie 11, 3, où il est écrit « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. » Question de malédiction, un aspect important du péché. Maintenant, pour revenir sur le mot « avon » qui décrit le péché, et plus précisément l'iniquité qui fut trouvée chez Lucifer, d'après Ézéchiel 28,15, mot qui est utilisé plus de 200 fois dans la Bible, il s'avère qu'il décrit, premièrement, l'iniquité proprement dite. Deuxièmement, la culpabilité qui s'attache à tous les actes iniques. Et troisièmement, le châtiment inévitable qui doit obligatoirement résulter de toute iniquité. Ésaïe 53, où il est question de Christ, décrit celui qui a dû porter toutes nos iniquités. Il a dû porter nos iniquités. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. J'espère que ce n'est plus le cas. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, avant, de nous tous. Verset 11 d'Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards et par sa connaissance, mon serviteur juste, question de Christ ici, du Messie, justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Est-ce que nous nous rendons compte de la gravité du péché? Dieu est le péché, il est l'iniquité. Pourquoi? À cause de toute la destruction qu'il engendre. Je ne parle pas seulement de destruction physique, mais surtout de destruction spirituelle. Et inévitablement liée à la destruction spirituelle est celle du caractère. Nous devons développer en nous un caractère saint, ce qui est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Dieu seul peut nous aider à opérer cette métamorphose. Le péché nous prive de notre incroyable potentialité en tant que futur être spirituel et futur membre de la famille divine. L'Ancien Testament parle souvent du méchant, en hébreu « rasa ». Comme dans Genèse 18, où Abraham dit à Dieu, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Rasa. « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Faire mourir le juste avec le méchant, à nouveau, Rasa. En sorte qu'il soit du juste comme du méchant, Rasa. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Versets 23 à 25 de Genèse 18. Il est écrit que l'Éternel connaît la voie des justes. Est-ce qu'il connaît nos voies? Est-ce que nous sommes ces justes? Il connaît la voie des justes et la voie des pécheurs ou des méchants, comme c'était aussi traduit dans plusieurs versions. La voie des pécheurs ou des méchants mène à la ruine. Psaume 1, 6. Psaume chapitre 1, verset 6. Repartons-nous maintenant à Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 7. Ésaïe 55 et le verset 7. Je sais, je galope un peu aujourd'hui. Je vous ai parlé de beaucoup de mots, mais ce qui compte, c'est d'avoir l'idée d'ensemble. À nouveau, ces mots nous aident à comprendre le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que nous venons de lire ou d'entendre qui nous reflètent? Des problèmes, des défauts, des péchés que nous avons encore et sur lesquels nous devons travailler. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Dieu est sérieux quand il dit ces choses. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ces trois versets résument notre devoir chrétien d'éliminer à tout prix le péché de nos vies. La voie du péché, celle de l'iniquité, découverte un jour en Lucifer, est terriblement destructive et spirituellement mortelle. Ne vous méprenez pas, frères et sœurs, si vous ne pensez pas comme Dieu, si vous n'arrivez pas un jour à réellement penser comme Dieu, vous ne serez pas dans le royaume. Je sais que c'est un processus, mais j'insiste sur le fait que penser comme Dieu est la clé de notre appartenance future à la famille divine dans l'immortalité. Nous devons être d'accord avec Dieu. Si nous ne sommes pas d'accord, nous dévions, nous cherchons autre chose. Nous allons voir ailleurs comme Lucifer l'a fait et comme des milliards de démons l'ont fait. C'est sérieux. Lucifer et des milliards d'anges se sont écartés de la loi divine. Ils se sont rebellés. Ils ont décidé sciemment, en pleine connaissance de cause, de suivre la voie du péché. Ils ne peuvent pas mourir étant esprits, mais ils sont condamnés à vivre éternellement dans les ténèbres. Leur mentalité est tordue à jamais. Ils ont dépassé les bornes. Ils ont atteint le point de non-retour. Ont commis sciemment, en le faisant exprès, par mépris pour Dieu et sa voie, le péché impardonnable. Le péché impardonnable consiste à se rebeller sciemment, volontairement contre Dieu, à faire exprès de s'opposer à lui, à le désapprouver, à le contredire, sans s'en repentir. C'est commettre un péché dont on ne se repent pas. C'est endurcir son cœur, devenir incorrigible. Il y a trois passages dans la Bible qui nous avertissent d'un péché qui ne peut être pardonné. Tous trois font allusion au péché qui consiste à rejeter sciemment et intentionnellement Dieu, soit en niant l'œuvre de l'Esprit Saint, soit en niant le sacrifice de Jésus-Christ par lequel le péché est pardonné. Premièrement, le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 à 37. Matthieu 12, Matthieu chapitre 12. Trois passages sur le péché impardonnable. Premièrement, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. Et Jésus avertit les pharisiens ici que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ouh, ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Blasphémer, c'est vilipender. C'est railler ou parler mal contre quelqu'un ou quelque chose. Les versets 22 à 30 donnent le contexte de cette déclaration. Jésus avait guéri un homme possédé par un démon. Et les témoins de ce miracle se rendaient compte que c'était là une preuve que Jésus était le Messie, comme on le lit au verset 23. Mais dans une tentative de discréditer Jésus et de tromper intentionnellement le peuple, les pharisiens l'accusèrent d'avoir guéri cet homme par la puissance de Satan, Belzébub. Jésus avertit les pharisiens que le fait de savoir qu'il avait accompli ce miracle par la puissance de l'Esprit de Dieu, et ensuite de le nier volontairement, en attribuant le miracle à la puissance de Satan, était une forme de blasphème qui ne pouvait être pardonnée. Bon, il y a un autre passage, un deuxième passage, qui se trouve dans Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Un autre passage qui montre ce que c'est que le péché impardonnable. Nous parlons de péché aujourd'hui. Nous cernons l'idée de péché. Qu'est-ce qui fait qu'un péché est un péché? Alors, le deuxième passage se trouve dans Hébreux 6, versets 4 à 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, hein, quelqu'un qui a compris la vérité, Dieu l'a appelé, il a compris la vérité, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, ils ont été baptisés, ils ont été convertis, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, après cela ils sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie une deuxième fois. On ne le fait qu'une fois. Ce passage décrit une personne qui en est venue à comprendre et à accepter le pardon des péchés de la part de Dieu par Jésus-Christ, qui a reçu le don de l'Esprit-Saint et qui par la suite se détourne sciemment et intentionnellement de cette compréhension. Il s'agit d'une personne qui refuse dorénavant de se repentir et qui ne peut donc plus être pardonnée. Le péché qui ne peut être pardonné est un péché duquel on refuse de se repentir, c'est-à-dire le rejet du sacrifice de Christ et le choix du péché intentionnel plutôt que la repentance, le pardon et l'obéissance. Bon, il est très rare que, par exemple, dans l'Église, on nous demande souvent, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Non, dans la plupart des cas, vous ne l'avez. C'est très rare, mais la plupart des cas, si vous vous repentez, si vous êtes désolé, si vous cherchez à revenir vers Dieu, vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Le péché impardonnable est fait sciemment. On se rebelle contre Dieu, on ne veut plus entendre parler de Dieu. C'est ça le péché impardonnable. On se rebelle contre lui et sciemment, en pleine connaissance de cause. Je viens de vous expliquer tout ça, revenez là-dessus si vous avez besoin de le faire. Pécher volontairement est impardonnable. Le troisième passage qui décrit le péché impardonnable se trouve dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 26. Alors nous allons nous y reporter. Hébreux chapitre 10 et le verset 26. Si nous péchons volontairement, le mot volontairement est très important ici, après avoir reçu la connaissance de la vérité, hein, en pleine connaissance de cause, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pécher volontairement veut dire faire exprès de ne plus se conformer aux lois de Dieu et de ne plus se repentir en pleine connaissance de cause. Quand on sait pertinemment ce qu'on devrait faire, mais qu'on refuse de le faire. Le caractère, la volonté et le désir sont ainsi fixés, et l'on rejette Dieu et l'obéissance à Dieu en pleine connaissance de cause. Il n'y a plus de sacrifice ni de pardon des péchés pour celui qui connaît Dieu, sait qu'il devrait se repentir et accepter le sacrifice de Jésus, mais refuse de le faire. C'est très rare dans, hein, que le péché impardonnable est réellement une grosse faute. C'est mortel. Hein. Nous sommes à un moment de l'année où Dieu nous dit de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, si nous avons les pensées de Christ, comme c'est écrit dans Philippiens 2:5, que nous citons souvent parce que c'est une clé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, disait Paul aussi. Nous revenons souvent sur ces passages. Ne prenez pas ce commandement à la légère, frères et sœurs. Il en va de votre vie éternelle ou de votre destruction définitive et éternelle. Grâce à Dieu, nous pouvons y arriver, mais c'est sérieux. Examinez-vous, faites votre bilan spirituel annuel. Ne soyez pas complice du mal ou d'une malhonnêteté. Dans le psaume 34, verset 14, il est écrit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Nous devons nous éloigner de tout individu ou groupe d'individus qui fait ou font le mal. Cela me fait penser aux faux prophètes et aux faux frères qui commettent le mal. Nous devons nous éloigner d'eux, c'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 6, verset 12. Nous nous examinons, c'est le moment de l'année où nous nous examinons et nous devons prendre notre appel au sérieux. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et à nouveau, si Paul dit ça, c'est que c'est encore possible pour un chrétien. Un Christ n'a pas tout fait à notre place, donc maintenant on n'a plus à s'en faire. Un Christ a payé pour nos péchés. Oui, il a payé pour nos péchés passés, mais nous devons nous repentir et nous devons cesser de pécher. Que le péché n'aurait donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il parle à des chrétiens ici, à des membres baptisés, convertis. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, vous étiez mort spirituellement, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, ou c'est la malédiction de la loi, puisque vous êtes sous la grâce. Vous êtes sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Ah, voilà un autre passage que les gens préfèrent ne pas voir. Pécherions-nous, soi-disant, sous prétexte que nous sommes non sous la loi ou sous sa malédiction, mais sous la grâce? Loin de là! Loin de là! On tord les paroles de Paul à droite et à gauche. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Plusieurs adjectifs décrivent encore le péché, comme le mot « ponros », qui est un dérivé de « néfaste », dans le sens de « méchant », qui indique une dégénérescence par rapport à la vertu, qui signifie « calamiteux »,« désastreux », mais aussi « maladif »,« coupable », »,« vicieux », »,« malicieux », »,« obscène », »,« débauché ». Comme dans Matthieu 5, 45, « Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux », car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a aussi l'adjectif kakos, qui signifie bon à rien, mauvais, qui est dépravé ou injurieux en fonction du contexte. Dans Romains 13, 3, il en est question, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Il y a aussi l'adjectif adikos, qui signifie méchant, avec la notion de trahison. Qui est le plus grand traître? Satan. La notion de trahison qui signifie profane, injuste. Comme dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Question ici de plusieurs aspects du péché. J'ai souvent dit que notre destinée est d'approuver Dieu à 100%. De lui faire entièrement confiance, d'aimer ses voies, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, car un jour nous serons en lui, nous serons un avec lui, avec eux, avec le Père et le Fils. Pour cela, nous devons, grâce à son esprit, développer son caractère saint. Pas de demi-mesure, ni le moindre compromis. Il n'y aura pas de péché dans le royaume de Dieu. Aucun, rien, zéro, pas de péché dans le royaume de Dieu. Les anges qui ont péché ont été expulsés, bannis pour l'éternité. Leur caractère est tordu à jamais. Parce qu'ils l'ont choisi ainsi. Ils haïssent les voies de Dieu, ils haïssent Dieu. Et pour nous, 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Paul s'adresse ici à des Corinthiens, aux Corinthiens, mais est-ce que c'est si éloigné de nous que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas ces problèmes? C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Est-ce que le péché règne encore beaucoup dans nos vies? Le péché est mortel. Il n'y aura pas de péché dans le royaume. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue. Il parle aux vrais chrétiens, à ceux qui sont appelés, à ceux qui croient. Oh, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu regarde au cœur. Oh, il sait que c'est dur, qu'il faut faire de gros efforts pour changer, n'est-ce pas? Mais gardez les yeux sur Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Jean chapitre 1, nous allons lire tout un passage ici pour essayer de refléter qui nous sommes. Quelle est notre identité à nous autres chrétiens? Est-ce que nous pouvons nous identifier à ce que nous allons lire? 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il est ici question de Jean qui, lui, a été témoin de toutes ces choses. Nous n'y étions pas, mais par la foi, nous y croyons. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous ne l'avons pas vue personnellement, mais nous y croyons. Nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, Jean poursuit, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Soyons à la même page, nous croyons les mêmes choses. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, verset chapitre 2, verset 1, et ces gens qui parlent à nouveau, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. À nouveau, il s'adresse à des chrétiens, c'était donc encore possible de pécher. Ce que la plupart des églises dites chrétiennes de ce monde aujourd'hui nient catégoriquement. Oh, vous ne péchez plus, Christ a tout fait à votre place. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites. Oh, on est humain, on pêche, qu'est-ce que vous voulez, on est imparfait. Ils n'ont rien compris. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, et nous péchons encore. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Est-ce que nous gardons ses commandements? Oui, je pense, oui. Du moins, la plupart d'entre nous dans l'Église. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui, en communion avec lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il s'agit à nouveau de faire ce qu'il a dit. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris et qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Et nous voyons la lumière à la fin du tunnel. La fin approche, frères et sœurs. Nous voyons le monde qui se désagrège autour de nous, il n'y en a plus pour longtemps. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Vous connaissez tout le passage. À votre avis, frères et sœurs, que pense Dieu? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il hait? Qu'est-ce qu'il hait? Quels sont les traits de caractère qu'il n'acceptera jamais dans son règne, dans sa famille? Des traits de caractère dont nous devons nous débarrasser à tout prix? Galates chapitre 5, verset 19, vous me voyez venir probablement, Galates chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qui est typique en nous, en vous et en moi? Ce qui est typique, ce que la chair produit, et ce que nous devons éviter, ce dont nous devons lutter constamment. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Regardez chacun de ces mots, à la maison, chez vous après. Regardez chacun de ces mots. Ce n'est pas quelque chose qui appartient seulement au passé. Cela nous touche aussi. L'idolâtrie, la magie, les rivalités. Bon, il y a certains mots là-dedans qui ne nous touchent pas plus spécialement, mais il y en a d'autres qui nous touchent. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Ah, les disputes, les divisions. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Autrement dit, la liste n'est pas complète. Il y en a encore d'autres, mais les choses semblables. Vous voyez où je veux en venir, nous dit Paul ici essentiellement. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul décrit ici pour nous les traits caractéristiques du péché, ce qui est typique dans le péché. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sort, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Dieu nous dit de changer, frères et sœurs. Il nous dit de changer. Si nous ne changeons pas, nous ne serons pas dans le royaume. Avons-nous soif de Dieu? Désirons-nous de tout cœur être comme notre Père céleste et son Fils? Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Dans quelle mesure cherchons-nous à éliminer le péché de nos vies? Pour Dieu, que représente le péché? Que représente-t-il pour nous? Approuvons-nous l'Éternel sur sa définition du péché? Avons-nous ses pensées? Avons-nous son esprit? Nous avons vu en quoi cela nous concerne et en quoi cela affecte notre ultime destinée en tant qu'enfant de Dieu et en tant que futur membre immortel de sa famille. Soyons certains de ne pas rater la cible. Assurons-nous de bien comprendre ce que représente le péché, car ses conséquences sont terribles. Le péché engendre la mort. La mort éternelle. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à tous au revoir et à bientôt.